VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du mercredi 23 décembre 2020. John Linden à la présentation. Tout d'abord, les titres de cette édition. Au Mali, l'ancien premier ministre Boubou Cissé dément toute implication dans un projet de déstabilisation de la transition, alors que plusieurs personnalités ont été interpellées ces derniers jours. C'est un climat d'inquiétude et de peur qui règne en Centrafrique, même si l'ONU estime que la situation est sous contrôle à Bambari. Cette ville a été reprise aux rebelles mercredi par l'armée et les casques bleus. Israël se retrouve à nouveau sans parlement après la dissolution mercredi de l'ancien. De nouvelles élections, les quatrièmes en 2 ans, doivent être organisées. Ici aux États-Unis, Donald Trump a rejeté hier le plan de relance de 900 milliards de dollars adopté par le Congrès, le qualifiant de honte. Pour sa part, Joe Biden estime que ce plan est un premier pas. Également dans cette édition du Monde Aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Une fois encore, bonsoir. En Centrafrique, l'armée et les casques bleus ont repris, on le disait mercredi, Bambari, moins de 24 heures après la prise de cette ville par les rebelles, à 5 jours des élections présidentielles et législatives. Abdourahmane Dia.
Abdulaziz Fall, porte-parole de la MINUSCA, la mission onusienne en Centrafrique, tente de rassurer ce mercredi matin. La situation est sous contrôle à Bambari, affirme-t-il. Les civils commencent à revenir, les groupes armés ont été repoussés dans la brousse, a-t-il précisé. Des éléments de l'unité pour la paix en Centrafrique, UPC, un des nombreux groupes armés du pays, avait pris le contrôle de la ville hier, pillant le commissariat, la gendarmerie et les maisons, selon le maire. L'inquiétude gagne également la capitale. Il y a eu des paniques de la population ce matin à Bangui, a déclaré ce mercredi. Mais il a aussi tenu à rassurer, affirmant que Bangui est calme et que la situation est maîtrisée. La tenue des élections dimanche est un enjeu majeur pour l'ONU et le pouvoir du président sortant, Faustin Archange Touadéra, qui exclut tout report malgré les attaques des groupes armés ces derniers jours. Le gouvernement a accusé le 19 décembre de tentative de coup d'État l'ex-président François Bozizé, dont la candidature à la présidentielle a été invalidée en raison des sanctions de l'ONU.
Les États-Unis ont redonné mardi un statut commercial préférentiel à la République démocratique du Congo, 10 ans après le lui avoir retiré. Donald Trump a attribué de nouveau à Kinshasa la possibilité d'envoyer sur le marché américain des exportations sans taxes douanières en raison des mesures prises par le gouvernement de la RDC. L'ancien président américain Barack Obama avait retiré ses privilèges à la RDC en décembre 2010, invoquant des violations des droits humains par les forces de sécurité congolaises, dont le recours au viol comme arme de guerre. Mais Washington a affiché son optimisme depuis l'élection du président Félix Tshisekedi, qui s'est engagé à lutter contre la corruption. Le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS au pouvoir depuis 2011 au Niger a remporté les élections municipales du 13 décembre d'après les résultats provisoires publiés mardi par la Commission électorale nationale indépendante. Le PNDS a remporté 1799 sièges de conseillers municipaux sur les 4246 sièges attribués dans les 266 communes du pays. La CENI n'a pas donné de résultats pour les élections régionales tenues le même jour que les municipales. Ces élections locales, repoussées à plusieurs reprises et depuis 2011, précèdent le scrutin présidentiel du 27 décembre. Au Mali, un ancien premier ministre dément toute implication dans un projet de déstabilisation. Cela fait suite aux interpellations de certaines personnalités maliennes, dont un activiste et animateur radio vedette depuis lundi par la Direction générale des services de l'État. La DGSE indique que c'est pour les besoins d'une enquête sur un projet de déstabilisation de la transition. De Bamako, une correspondance de Kassim Traoré.
Le dernier premier ministre de l'ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta, Boubou Cissé, a démenti mercredi toute implication dans un projet de déstabilisation des autorités de transition. Au moins trois personnalités, dont l'activiste et animateur radio Mohamed Youssouf Bachelidi Rasbach, ont été interpellées lundi par la Direction générale des services de renseignement pour des besoins d'une enquête dont l'objectif n'a pas été annoncé. Le directeur du Paris Mutuel Urbain, Vital Robert Diop, et les patrons d'une agence publique, Souadou Koulibaly, ont également été amenés par les services de renseignement. Le secrétaire général de la présidente de la République, Sékou Traoré, a pour sa part été interpellé mardi, puis remis en liberté avant d'être à nouveau entendu mercredi matin par la DGSI. Selon une source sécuritaire et un membre de sa famille, il a notamment été interrogé sur les liens avec le patron du PMI, dont il aurait empêché le limogeage. Il faut rappeler que Boubou Cissé avait été arrêté le 18 août lors du coup d'État qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le FPI, le Front Populaire Ivoirien, parti d'opposition de l'ex-président Laurent Gbagbo, a annoncé ce mercredi qu'il participera aux législatives au premier trimestre 2021, après avoir boycotté toutes les élections depuis 10 ans. Le Front Populaire Ivoirien participera aux élections législatives et se donnera en concertation avec ses partenaires de la coalition des plateformes de l'opposition ivoirienne, notamment avec le PDCI-RDA, les moyens de les gagner, a déclaré le FPI dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion de son comité central mardi. Ce revirement du FPI s'explique par le retour annoncé de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Le Parlement turc a adopté mardi une motion prolongeant de 18 mois l'autorisation de déployer des militaires en Libye, où l'intervention d'Ankara aux côtés du gouvernement de Tripoli a inversé les cours du conflit. La motion votée a été présentée par la présidence turque, qui a notamment invoqué pour la justifier la possibilité d'une reprise des attaques de l'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar, contre le GNA, le gouvernement d'union nationale de Tripoli reconnu par l'ONU.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Israël, le Parlement s'est dissous, plongeant l'État hébreu dans sa quatrième campagne électorale en moins de 2 ans, sur fond de tensions entre Benjamin Netanyahou et Benny Gantz. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le Parlement s'est dissous faute d'accord sur le budget au sein du gouvernement d'union et d'urgence formé en avril par le premier ministre Benjamin Netanyahou, issu du parti Likoud, et son ancien rival Benny Gantz de la formation centriste Kaol Lavan. Les deux leaders se sont alliés dans un même gouvernement après 3 scrutins les ayant placés au coude à coude. L'accord visant à rassembler les principales forces politiques du pays pour affronter la pandémie de COVID-19 prévoyait, entre autres, une rotation pour le poste de premier ministre et l'adoption d'un budget unique pour les années 2020 et 2021. Mais pour concrétiser cette rotation et permettre à M. Gantz d'accéder au poste de chef de gouvernement l'an prochain, les parlementaires devaient au préalable s'entendre sur le budget, un pas qu'ils n'ont pas pu franchir jusqu'à la date butoir. Aucun compromis n'ayant été trouvé, le Parlement est automatiquement dissous et les Israéliens de nouveau convoqués aux urnes. Pour éviter ce scénario, la formation de Benny Gantz avait proposé un compromis de voter 2 budgets séparés, un fin décembre, l'autre début janvier. Mais les parlementaires l'ont rejeté hier par 49 voix contre 47.
Les États-Unis ont acheté 100 millions de doses supplémentaires du vaccin contre le COVID-19 développé par Pfizer et BioNTech. Ces vaccins seront livrés d'ici JF, fait savoir ce mercredi le Pentagone. Cette nouvelle commande porte les commandes américaines à 400 millions de doses, la moitié venant de Pfizer, l'autre de Moderna, ce qui permettra d'immuniser 200 millions de personnes, ces deux vaccins nécessitant 2 injections à 1 mois d'intervalle. Toujours ici aux États-Unis, le président Donald Trump a rejeté hier soir le plan de relance des quelque 900 millions de dollars adopté la veille par le Congrès après des mois de blocage. La loi ne peut entrer en vigueur sans la signature du président. Eric Maniratiza.
Monsieur Trump le qualifie de honte, son plan de relance qui fixe à $600 le montant des chèques envoyés aux familles. Il en réclame une augmentation à $2000 ou $4000 pour un couple. Le chef de l'exécutif américain demande également au Congrès de se débarrasser des éléments inutiles et coûteux de cette loi. Dans une vidéo publiée sur Twitter, le président Donald Trump exige que lui soit envoyé une proposition de loi amendée convenable, sans quoi il pourrait revenir à la prochaine administration d'adopter un plan de relance. La présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, a semblé mettre Donald Trump et son camp au défi de concrétiser la peine lancée par vidéo. Enfin, le président est d'accord pour 2 000 $. Les démocrates sont prêts à amener cela dans l'hémicycle cette semaine à l'unanimité. Faisons-le, a-t-elle réagi dans un tweet. Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a quant à lui estimé hier que le plan d'aide de 900 milliards était un premier pas, mais qu'il ne serait pas suffisant, et a annoncé qu'il demanderait l'an prochain au Congrès de voter un nouveau plan de soutien à l'économie américaine.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Michel Joseph.
Des millions de Nigérians font face à de sombres fêtes de fin d'année à cause de l'impact économique du confinement imposé par la pandémie du Covid-19. Certaines organisations caritatives distribuent des vivres aux familles nécessiteuses. Pour sa part, le gouvernement a rouvert récemment les frontières avec le Bénin et le Niger. Celle-ci avait été fermée il y a un peu plus d'un an pour lutter contre la contrebande. Au Zimbabwe, c'est la saison des coléoptères de Noël, des punaises locales considérées comme un mets de choix. Par ailleurs, elles sont gratuites puisqu'il suffit d'entrer dans la brousse et de secouer les arbustes pour les ramasser. Dans les campagnes zimbabwéennes, les populations complètent leur alimentation en protéines grâce à ces punaises, mais aussi des vers mopami et des fourmis blanches. Sur le front de la lutte contre la pandémie de Covid-19, le gouvernement américain a acheté 100 millions de doses additionnelles du vaccin Pfizer-BioNTech, livrable d'ici le mois de juillet. Ce qui porte son stock de vaccins anti-Covid à 400 millions de doses. Cela permettra d'administrer une double dose à 200 millions de personnes.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à tous. Le deuxième tour des préliminaires de la Ligue des champions CAF se poursuit ce soir. La grosse surprise du jour est venue du Soudan, où El Merrekh s'est imposé à domicile 3-0 face à Enyimba du Nigeria. Défaite également 0-1 de l'autre club nigérien, l'AS Sonidep, qui recevait le champion en titre Al Ahly. 1-1 entre Nkana de la Zambie et le Petro Atlético de Luanda. 1-0 pour le Platinum du Zimbabwe qui recevait Simba de la Zambie. Hier, les Young Buffaloes d'Iswaitini ont fait match nul à domicile 2-2 face à l'AS Vita Club de la RDC. Défaite à domicile des Chouaneng Galaxy du Botswana 0-2 contre Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. En Coupe CAF, les Congolais de DC Motoma Pembe ont arraché une courte victoire précieuse 1-0 dans les arrêts de jeu en Angola face à 11 Bravos. Les Camerounais du Coton Sport de Garoua sont allés s'imposer 2-0 en Zambie devant Green Eagles. 2-0 aussi pour les Rwandais de l'AS Kigali qui recevaient Kampala Sidi de l'Ouganda. 2-0 pour les Tanzaniens de Namungo face à Al Hilal Obed du Soudan. Même score en faveur de Monastir de la Tunisie devant Al Ahly de Tripoli. Hier, Salitas du Burkina Faso a fait une bonne affaire en gagnant 0-1 au Soudan devant Al Ahmal Atbara. 0-0 entre l'US Songo du Mozambique et Napsa, star de la Zambie. 1-0 pour les Sud-Africains d'Orlando Pirates en déplacement en Angola pour y affronter Sagrada. Ici, en NBA, nous parlons de basketball. La bataille de Los Angeles a repris la nuit dernière et les Clippers ont pris le meilleur sur les Lakers, 116-109 en ouverture de la saison, gâchant le retour de LeBron James et ses équipiers au Staples Center, où les attendaient leur bague de champion. Les Clippers ont pu s'appuyer sur leur collectif, mais aussi sur les performances réussies de Paul George, 33 points, et l'autre star de l'équipe, Kawhi Leonard, 26 points. Côté Lakers, LeBron James a inscrit 22 points et réalisé 5 rebonds et 5 passes décisives, Son compère Anthony Davis compte 18 points, 7 rebonds et 7 passes décisives. Avant cette rencontre, les Brooklyn Nets, portés par leur duo de stars Kevin Durant, Kyrie Irving, enfin opérationnel et performant, 48 points à eux deux, ont aisément battu 125 à 99 Golden State de Stephen Curry, absent des parquets depuis un an et demi après sa rupture d'un tendon d'Achille, un match des finales 2019 perdu avec Golden State contre Toronto. Durant a réussi son grand retour dans une rencontre officielle, inscrivant ses 22 points, 5 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions, sans forcer en 25 minutes face à son ancienne équipe des Warriors.
Merci Yacouba. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique. John Lydon toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour et on commence par la RCA. La RCA où la situation sécuritaire reste tendue. De nouveaux combats ont secoué ce mercredi plusieurs localités proches de la capitale. À Bangui, des rumeurs d'infiltration d'hommes armés avaient créé une panique généralisée paralysant les activités. Les autorités rassurent et appellent au calme. À Bangui, pour VO Afrique, Freeman Sipila.
Ce mercredi dans la matinée, les combats ont été d'une extrême violence à l'entrée de la ville de Boali, située à 95 km dans le nord-ouest de Bangui. Après des heures de tirs à l'arme lourde et légère, un calme précaire a régné toute la journée et la ville est toujours contrôlée par l'armée centrafricaine et ses alliés russes et rwandais. Alors que les affrontements se poursuivaient, des rumeurs d'infiltration des combattants rebelles dans la capitale ont paniqué toute la ville. Les habitants couraient dans tous les sens. Marie-Noël Koyara, ministre de la Défense, appelle au calme.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce matin, il y a un véhicule de la Croix-Rouge qui revenait de Boali et ce véhicule a fait un accident. Et pour sauver les blessés et les vies, les gens étaient obligés de faire recours à des taxis-motos pour transporter les blessés vers les centres hospitaliers. Ces taxis-motos, il y en a qui ont fait circuler les rumeurs comme quoi il y a les agresseurs, les ennemis de la paix qui sont à la porte de Bangui. Et quelqu'un s'est permis de tirer un coup de feu en l'air. Donc en ville, dans tous les quartiers, c'est la débandade, alors qu'il n'y a rien. Le gouvernement s'attelle actuellement à mettre en place les dispositions nécessaires pour ramener la paix et pour que nous puissions aller aux élections le 27 décembre.
Contrairement à certaines informations qui circulent faisant état de la reprise de la ville de Bombari par les casques bleus de la MINUSCA, des sources locales jeunes par VOA Afrique en début de soirée ont indiqué le contraire.
Oui, ils sont présentement là, ils sont là, ils appellent même les gens sortis pour vaincre l'occupation. C'est un groupe armé qui appelle les gens sortir, de ne pas avoir peur et tout, de vaincre l'occupation. Les gens sont encore méfiants. On ne sait pas ce qui peut se produire.
Face à cette montée de violence, l'archevêque de Bangui, le cardinal Dieudonné Zapalainga, appelle au dialogue et à la cessation des hostilités.
Jamais la violence n'a apporté une solution. Jamais la guerre n'a pu résoudre des problèmes. Il est temps pour nous de nous retenir. Voilà pourquoi je lance cet appel à la retenue. Je lance cet appel au calme. Je lance cet appel à la prise de responsabilité. Car demain, des hommes, des femmes, des enfants qui vont mourir, Dieu pourra vous demander des comptes. Qu'avez-vous fait de votre frère? Son sang a coulé. Il est maintenant handicapé à vie. Je voudrais qu'on puisse privilégier, une fois de plus, la voie de dialogue pour chercher une solution à notre problème.
Alors qu'un couvre-feu concernant les taxis-motos est décrété de 20h à 6h du matin, plusieurs candidats à la présidentielle ont annoncé la suspension de leur campagne électorale pour raison d'instabilité sécuritaire. Les centrafricains sont appelés aux urnes ce 27 décembre pour la présidentielle et les législatives. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
La voix de l'Amérique, Bangui 101.7 FM.
Au Tchad, les militants du parti Les Transformateurs ont tenté de braver la décision des autorités d'N'Djamena interdisant la marche pacifique programmée ce mercredi 23 décembre par la direction de leur formation. Mais ils ont été violemment réprimés par la police cet après-midi à N'Djamena. Les Transformateurs affirment avoir enregistré 2 blessés dans leur rang. André Kodmajinga, correspondant de VO Afrique, fait le point de N'Djamena.
Le quartier général du président du parti, les transformateurs Docteur Succès Masra et quelques espaces vides du dit quartier ont été quadrillés tôt ce mardi par la police anti-émeute. Une dispositif pour empêcher les militants de la dite formation politique d'organiser leur marche pacifique dénommée Marche des leaders pour la justice. Le ministre de la Sécurité publique, Mahamat Tahir Ourouzi, évoque la situation sanitaire actuelle de Covid-19 pour interdire cette manifestation pacifique. Docteur Succès Masra et ses militants qualifient cette décision de deux poids, deux mesures. À 15h, heure de N'Djamena, à peine sortir de leur siège, ils ont été violemment dispersés par les éléments de la police. C'était une dépendance totale. Même les journalistes n'ont pas été épargnés de cette bavure. Colère d'un militant du parti Les Transformateurs.
Juste devant la grande porte, là, on nous a lancé des gaz lacrymogènes et on s'est un peu replié à l'intérieur. Nous avons même des blessés et il y a une fille qui est également évanouie. Nous sommes en cercle, ils sont là. Ils sont en train de tirer même sur nous. À ce moment où nous vous parlons, il y a Didi qui est en train de faire une tournée au niveau de Mao. Il y avait des rassemblements. Il y avait eu au niveau de Assi, il y a rassemblement. Au niveau de Mongo, il y a rassemblement. Au niveau de Dikin, Amtiman, il y a rassemblement. Donc, comment nous, on peut violer la loi? La loi est pour tout le monde. Qui est présent? Ou bien Corona est seulement pour les transformateurs?
Les habitants aux alentours du quartier général du parti, les transformateurs, dénoncent le comportement de la police qui largue les gaz lacrymogènes dans les domiciles.
C'est un homme politique qui veut faire la marche. Mais maintenant, c'est comme c'est les concessions. Toutes les concessions affectées par les gaz lacrymogènes. On jette n'importe où. Parce qu'il y a des organismes qui ne peuvent pas supporter cela. Quelquefois, les enfants aussi sont tombés quelque part. Hein. Et c'est un effet négatif. Et je déplore ce comportement de Gémit. Où il n'y a pas le droit de s'exprimer de mon quartier, c'est un problème. Je ne sais pas où est en train d'aller ce pays-là.
Pour le porte-parole du parti au pouvoir, Maître Jean-Bernard Padaré, non seulement le président du parti, les transformateurs, a bravé l'autorité de l'État, mais il évolue dans l'illégalité.
Monsieur Masra, il faut qu'il arrête. Le président de la République est garant et au-dessus de la loi, au-dessus de la mêlée. Il est président de la République. En cette qualité, il fait un déplacement officiel. Masra et ses amis ont choisi de s'inscrire en marge de la loi. Monsieur Masra, au lieu de régulariser cette situation, choisit de faire un bras de fer avec le gouvernement. Pour moi, le gouvernement est tout à fait dans son droit d'agir, d'interdire une manifestation qui n'en est pas une.
Docteur Succès Masra, qui a été exclu de la course pour la magistrature suprême de 2021, entend maintenir cette pression pour exiger des autorités publiques un dialogue inclusif qui, selon lui, est la seule condition pour l'unité et la cohabitation pacifique. André Kodumadingar Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Congo-Brazzaville, les autorités ont décidé du confinement général de la population les jours de Noël et de Nouvel An, selon le porte-parole du gouvernement Thierry Mongala, qui a donné cette information. Le pays redoute une deuxième vague de la pandémie à coronavirus. Mais les commerçants et la population regrettent cette décision. Le reportage de Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
C'est en plein marché Potopoto de Brazzaville où elle fait ses courses de Noël que la famille Mbon apprend la nouvelle du confinement. Sa déception est grande.
La décision, elle déçoit. Tous les jours dans la ville, les jours de marché, c'est plein de gens au marché. Même là, les gens sont en train de faire les emplettes dans les marchés, c'est plein. Hein? Allez voir dans les veillées mortuaires et dans beaucoup de mariages, tant coutumier qu'à l'état civil, comment les gens dansent et boivent, se collent et se frottent. Donc une décision comme ça, est-ce que c'est parce qu'on a décidé de ça le 25, le 1er janvier que le taux va vraiment baisser? D'ailleurs on est à combien? Je n'en sais pas, je n'en sais rien. En tant que père de famille, je suis quelque peu déçu, je pense que les enfants le sont aussi.
Au restaurant Le Plat d'Or, les stocks pour les fêtes de fin d'année et les réservations de tables étaient déjà bouclés lorsque le patron, Alphonse Ndongo, est informé du confinement général. Il avait misé sur ces temps de fête pour essayer de compenser les pertes énormes provoquées par la crise sanitaire. Mais là, il parle d'un déluge.
J'ai des gens qui sont des fonctionnaires des Nations Unies qui ont réservé le 25 pour leurs enfants. Et donc là, j'ai déjà engagé des dépenses, ils m'ont donné de l'argent. Les mêmes gens reviennent le 1er janvier, vous comprenez, c'est une perte totale. Je ne sais même pas comment on va faire, c'est vraiment catastrophique, c'est un déluge, mais nous ne pouvons rien faire, c'est la décision du gouvernement.
Le Congo-Brazzaville compte 6200 cas de Covid-19, dont 100 morts. Les autorités redoutent fortement une deuxième vague qui pourrait faire plus de dégâts. Dans un tweet, le porte-parole du gouvernement Thierry Mungala a indiqué que c'est la mort dans l'âme que cette décision a été prise. Dans les quartiers de Brazzaville, la population fait savoir sa déception, mais salue en même temps une décision responsable des autorités.
La loi est dure, mais elle reste la loi. Et parce que la santé n'a pas de prix, je profite donc de votre micro pour inviter nos amis jeunes à ne pas céder à la tentation de désobéir à ces mesures prises dans le but de stopper la pandémie.
Donc on est dessus quoi, on attend des vraies mesures qu'on annonce aussi. Qu'à un certain moment de prendre des mesures comme ça, de façon ramassée, et puis pour faire mal à la population quoi.
Si le confinement général est retenu pour le 25 décembre et le 1er janvier 2021, un couvre-feu commençant à 20h entrera également en vigueur dans la même période. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
En Côte d'Ivoire, l'ancien préfet d'Abidjan, Vincent Toby Hirié, sillonne le pays depuis qu'il a quitté ses fonctions de préfet cette année. Président de l'ONG Aube Nouvelle, il prône la réconciliation auprès des populations meurtries par des violences électorales. La cohabitation entre communautés, l'ancien préfet d'Abidjan y croit fermement. Joint à Abidjan par Bagassi Koura, il commence d'abord par évoquer ses voyages à l'intérieur du pays.
Nous avons reçu un accueil favorable de toutes les populations, de toutes les communautés qui ont connu ou subi des violences ces derniers mois. Nous avons eu le privilège de parler à chacune de ces communautés, dans chacune des villes où nous sommes allés. Mais nous avons trouvé sur place un paysage désolant. Quand je dis paysage, je parle de l'état d'esprit, mais également du paysage physique, où des maisons ont été saccagées, incendiées, des commerces totalement calcinés, des communautés divisées, des groupes qui se regardent en chien de faïence. Et vraiment, la situation, en tout cas dans ces localités que nous avons visitées, appelle à des actions urgentes, pour le retour de la paix, le retour de la cohabitation et que le développement local se poursuive.
Alors, en cette veille de Noël et aussi de fête de fin d'année, quel message vous avez pour les Ivoiriens?
C'est un message qu'on appelle à la paix, comme nous le faisons depuis plusieurs mois. Il y a eu des événements politiques qui sont arrivés. Ce ne sont pas les événements politiques de la Côte d'Ivoire. Les événements politiques de la Côte d'Ivoire, toujours. Ils ont choisi une forme de vie politique qui appelle la démocratie, qui appelle certaines situations particulières, notamment les consultations électorales, et également d'autres mécanismes. Ils vont mettre toujours au plus les uns des autres. Il nous faut arriver à nous surpasser. Et nous ne serons pas dans l'exclusion des communautés les unes à l'égard des autres. Je parle de toutes les communautés qui apportent une contribution à terre. Il faut que nous apprenions à rester toujours ensemble pour que le développement soit possible. Donc, le message de père avec les autres, c'est également le message divin de Noël, de l'enfant qui vient, qui nous permet de revivre, d'avoir un nouveau départ, une nouvelle enfance, une innocence, faire moins de conflits, afin d'être un pays en exemple, ce qui est un exemple. Et donc, c'est important que les Ivoiriens ne tombent pas de violence trop souvent inutile.
Alors, récemment, on a créé un nouveau ministère, le ministère de la Réconciliation Nationale. On voudrait savoir qu'est-ce que vous en pensez.
C'est une très bonne initiative. Ça veut dire que les autorités, la population et tout le monde a compris l'importance d'avoir, de se pencher sur la question de la réconciliation. Ne peut pas être prise pour acquise. Nous avons déjà eu des initiatives de réconciliation qui ont cours ici par des différentes institutions. Hein, à la lumière des événements que nous avons vécu, nous nous rendons compte qu'il y a encore des efforts à faire pour consolider cette réconciliation. Donc, avoir un ministère de la réconciliation qui est créé à une délégation spéciale de la présidence de la République, c'est une très bonne initiative. Maintenant, il faut meubler ce chantier-là. Il faut faire grandir la réconciliation, il faut la bâtir, il faut la rendre logique dans le fonctionnement.
C'était donc l'ancien préfet d'Abidjan, Vincent Toby Hirier, joint à Abidjan par Bagassi Koura.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum. L'année qui se termine a été riche en événements ici aux États-Unis. Cette semaine, nous passerons en revue les grands moments de l'actualité américaine. De la pandémie de Covid-19 à la présidentielle du 3 novembre, en passant par les relations entre Washington et ses partenaires européens, ainsi que la poussée diplomatique de l'administration Trump au Moyen-Orient. Rendez-vous ce jeudi 24 décembre 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
C'est la fin de ce journal à la mise en onde de Michel Joseph, Georges Léonard Sagnot et Joselle Morissin. À la présentation, John Linden. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24/24. Au revoir.